Une question de abeille. J'ai constaté à peine au bout de 2 jours un dépôt un peu nacré sur les cristaux de P comme les effets habituels du calcaire, mais cela quelle que soit l'origine de l'eau, soit celle locale du robinet ou l'eau plus lointaine de bouteilles d'eau de source. On aurait pu s'attendre à un dépôt aussi résistant et rugueux au toucher au bout de plusieurs jours ou semaines, mais là il est presque parti immédiatement et je voulais savoir s'il n'y avait pas de risque pour les pierres de s'abîmer en restant ainsi en permanence dans l'eau. Alors, les pierres ne peuvent pas s'abîmer dans l'eau. Donc, il existe, après, les pierres, bon, je suppose que ça doit être, parce que quand tu dis cristaux de paix, j'espère, je pense que c'est des 2C2P dont tu parles. Parce que c'est, effectivement, si tu prends d'autres pierres, il se peut que l'encodage lui-même fasse recracher aux pierres ce qu'il y a dedans. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes les pierres, sinon, pourquoi on mettrait du cristal de roche? Et l'aussi pur possible. C'est pour éviter, bien sûr, ce phénomène d'auto-nettoyage de la pierre. Mais bon, à part cela, les pierres ne risquent rien en tant que telles. Nous avons vu que quand nous avions mis, effectivement, par exemple, nos crânes de cristal dans l'eau encodée, eh bien, il y a eu, dans les premiers temps, beaucoup de calcaires qui sont apparus sur eux. Et en fait, ce calcaire était, en fait, ni plus ni moins, la crasse qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Donc, ce n'était pas du calcaire qui était dans l'eau, que ce soit du robinet ou de source, mais qui était du calcaire, une forme de crasse, enfin, qu'on dit que c'est du calcaire, c'est une forme de crasse qu'ils avaient en eux et ils se sont nettoyés. Mais généralement, on frotte un tout petit peu, ça part. C'est-à-dire que c'est pas du calcaire comme dans les tuyaux de chaufferie, quoi. Ça part très vite. Et après, vous pouvez les mettre aussi souvent que vous voulez dans l'eau, il n'y en a plus. C'est-à-dire ils se sont décrassés véritablement. Je pense que là-dessus, on est OK maintenant. Ah oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que le programme d'encodage, est en fait un anti-calcaire. Tout simplement. Et vous allez voir que si vous avez votre baignoire, si vous aviez du calcaire, vous savez, pas sur les robinets, mais sur... le truc où il y a le bouchon, je sais même plus où les mots, c'est vraiment c'est fou ça. Vous savez, les trucs qui sont argentés, souvent il y a du calcaire, faut frotter, faut mettre des choses. Eh bien, si vous laissez de l'eau encodée dessus, vous verrez que c'est nickel chrome et ça brille nickel. Parce que en fait, le tartre a été complètement dissous d'une certaine manière. Et on peut dire que dans la baignoire, il y a absolument plus zéro calcaire. C'est-à-dire que l'eau encodée s'en occupait sans problème. Une question de Carole B. Oui, idem, je les ai frottés avec une petite brosse en les sortant, le calcaire a l'air de s'agglomérer et flotter en plus de se déposer sur les pierres. Est-ce les cristallisations qui sortent des pierres? Bon, j'ai répondu, oui. Effet 2P, O2P dans l'eau normale. Une eau de robinet avec un goût désagréable encodé avec un 2C2P va monter considérablement en vibration, mais ne va pas faire disparaître son mauvais goût. Est-ce normal? Il faut savoir, moi j'ai pas fait les essais parce que j'ai pas d'eau qui ont de mauvais goût. Bon, un certain nombre de gens savent que le goût a changé. Puis après, tout dépend de l'eau du robinet que tu as, on est d'accord. L'autre chose, combien de temps faut laisser l'eau encodée faire son travail. C'est-à-dire que ton eau encodée, avec l'eau du robinet, est-ce qu'elle est à 10 puissance 10, 10 puissance 100, 10 puissance 500, 10 puissance 1000? Est-ce que le goût persiste quand elle est à 10 puissance 5000? C'est juste une histoire de temps. Or, j'ai pu voir que dans ma tournée, les gens, bien que j'ai fait une vidéo là-dessus, ne suivent pas ce que je dis. J'ai l'impression que des fois ils comprennent pas ce que je dis, c'est que il faut une réserve de bouteilles conséquente, de telle manière que vous puissiez faire monter en puissance votre O2P. Si vous avez une bouteille avec un O2P, enfin un cristal dedans, et que une fois que vous avez fini, même si vous laissez un fond, vous le remplissez immédiatement, vous perdez tous les effets, entre guillemets, de ce que l'eau avait encodé au départ. Donc, je dis, ne videz jamais les bouteilles en entier, laissez toujours un fond, et ensuite ce fond, laissez-le plusieurs jours pour qu'il monte en puissance. Et ensuite, mettait de l'eau. Donc quand je vois des gens qui ont une carafe avec un cristal dedans et qui complètent la carafe à fur et à mesure en disant ça y est, moi j'ai mis un cristal, mon eau est encodée, je peux vous dire que l'eau, elle va pas pisser loin en termes de puissance. Ça va être du 10 puissance 100, du 200. Et donc j'en étais arrivé pendant mes tournées à dire, moi si c'est à moins de 1000, je bois pas. C'est tout. Et une eau à 10 puissance 1000, ça, dans la semaine, vous pouvez l'avoir. Donc, dans 15 jours. Donc, suivez les recommandations que je vous donne et vous allez avoir de l'eau qui va décaper. Et si ton eau a encore un mauvais goût, c'est que parce que, pour l'instant, elle n'a pas réussi à monter en puissance suffisamment. Enfin, un goût désagréable. Bon, après, reste tout savoir, c'est personnel ça aussi, hein. Même observation pour une eau d'une petite mare de couleur jaunâtre. Elle va monter en vibration, mais ne va pas se clarifier. Pourquoi, Laurent, à ton avis? Ben parce que tout simplement, il n'y a pas assez de cristaux qui, elle était pas encore assez montée en puissance. Donc, si tu as une eau qui est montée à 10 puissance 5000 et que tu la verses dans ta mare, même si elle ne fait qu'un litre, tu vas voir ta mare à canard, comment elle va jouer là. Ça va être, tu vas voir, là où tu vas verser l'eau, tu vas voir, comme dirait l'autre, un trou d'eau claire par rapport à toute l'eau jaunâtre. Donc c'est toujours une histoire d'inertie et de montée en puissance. Donc ne pensez pas que le simple fait de mettre un cristal encodé suffit et puis qu'il n'y a rien d'autre à faire. Comprenez que ça ne suffit pas de mettre un moteur en route dans votre voiture pour que vous puissiez rouler à 130 à l'heure. Il va falloir passer les vitesses. Si vous ne passez pas les vitesses, eh ben, votre moteur il va tourner toujours au ralenti. L'accélérateur s'appelle le feu du cœur, par exemple. Comprenez que il y a quand même des manipulations à faire afin d'arriver à avoir une puissance, on va dire, importante. Et une fois que cette puissance est acquise, eh bien, elle ne pourra que s'amplifier. Mais si vous restez toujours dans le bas régime, c'est-à-dire au ralenti, et que de temps en temps vous osez passer la première sans appuyer sur l'accélérateur, ne vous imaginez pas rouler à 130 à l'heure. Okay, il y a des choses à faire, et c'est pour ça que je recommande vivement que de temps en temps, vous non seulement regardiez et écoutiez ce que je dis, mais que vous compreniez que derrière ce que je vous dis, il y a une expérience. Hein? J'ai par ailleurs rempli un seau en plastique d'eau dans lequel j'ai plongé un 2C2P pour désaltérer mes chats, et me suis rendu compte au bout de quelques jours que l'eau devenait trouble, voire jaunâtre, bien qu'elle soit montée considérablement en vibration. Est-ce le fait qu'elle est exposée au soleil qui a favorisé sa mutation? Alors, peut-être, peut-être pas. Mais une chose est claire, j'ai dit que dès que vous avez de l'eau, enfin un cristal encodé dans de l'eau, et que cette eau est ouverte à l'atmosphère, eh bien, l'eau va prendre toute la merde qu'il y a dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça que nous avons remarqué que dans tous les bocaux, enfin beaucoup, tous les coupelles, les bols dans lesquels on avait mis de l'eau avec des cristaux pour les êtres de la nature, eh bien, au bout d'un certain temps, on virait effectivement en termes de devenait gélatineuse, blanchâtre, dégueulasse, quoi. Et que bien que l'eau s'évapore un tout petit peu, ça laissait des dépôts sur les bords de verre qui étaient vraiment pas rebutants, mais qui donnaient pas envie de faire la vaisselle. Eh bien, dites-vous bien que cette eau, ni plus ni moins, ne faisait que décrasser l'air ambiant. Par contre, si la bouteille est bouchée, c'est-à-dire que si vous mettez un 2C2P dans de l'eau et que vous bouchez à ce moment-là, l'air n'est pas décapé, on va dire, en extérieur, et votre eau reste cristalline et monte en puissance. Voilà, voilà pourquoi dans mes bouteilles, je n'ai pas d'eau jaunâtre, parce qu'elles sont toutes fermées avec un bouchon. Mais tout ce qui n'est pas fermé va systématiquement décrasser ce qu'il y a dehors. Une question de Jib26. J'ai mis un 2C2P dans le pré-filtre et un dans mon adoucisseur. Le goût de l'eau a changé, mais ce qui m'intrigue, c'est que l'eau froide au robinet devient moins froide, voire même presque chaude. Comment expliquer la chose? Bah écoute, j'en sais rien, c'est une chose à vérifier. Je n'ai pas connaissance que les 2C2P montent en température l'eau, mais bon, faut voir pourquoi. Hein? Alors, une autre chose, j'en profite, puisque nous avons la mère de Corinne qui s'est amusée, ni plus ni moins, on va dire, je fais un résumé, à mettre un cristal dans le ballon d'eau chaude. Et donc, le ballon d'eau chaude est à 10 puissance 800. Et donc, le résultat, quand elle a de l'eau chaude et vous prenez une douche Avec cette puissance-là, vous voyez que l'eau est vraiment très différente. Et quand on met l'eau froide, elle tombe, je ne sais plus à combien, mais un roi des pâquerettes quelque part, qui n'a plus rien à faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau chaude peut être encodée et montée en puissance. Et que ce que j'avais dit par rapport à la montée en, comment dire, en température de l'eau, c'est quand vous les mettez dans les bouilloires et que ça monte à ébullition. Donc là, l'eau, enfin la puissance s'écroule, puisque vous mettez en ébullition, et donc, quelque part, les molécules, vous savez que quand on met en ébullition, l'atome grandit, et donc va vers la notion de gaz. Et donc tout ce qui était programmé, pas vraiment programmé, mais toute l'énergie qui avait été emmagasinée au niveau moléculaire, est quasiment fout le camp. Eh bien, quand c'est de l'eau chaude qui ne monte pas à 100 degrés, qui n'est pas évaporée, eh bien, à ce moment-là, elle peut monter en puissance. En clair, si mesdames, vous voulez une infusion, vous pouvez effectivement faire chauffer de l'eau. Avoir le ballon d'eau chaude, super encodé, vous aurez de l'eau chaude, qui sera super énergétisée. Mais si vous mettez l'eau sur la casserole et vous poussez le truc, ça, je ne sais pas si ça va marcher pareil. Je n'en sais rien, il faut faire les essais. Hein. Mais l'eau chaude peut être encodée. Alors, une question d'Isabelle. Il y a une différence gustative entre l'eau stockée dans une bouteille de verre entourée d'alu et une autre sans ce papier alu, les deux contenant un de ces deux P. La première ayant un goût franchement métallique et cela persiste depuis début juillet. À noter que l'eau dans les deux bouteilles est l'eau du robinet qui est naturellement chargée en fer et en magnésium. Y aurait-il une explication? L'explication, c'est simple, c'est que si effectivement... je vous avais dit qu'avec la version 2, il n'était plus du tout utile de mettre les bouteilles avec un papier alu. Il faut a priori, même si tu dis que ton eau est naturellement chargée en fer, en magnésium, si tu as une différence d'eau avec une bouteille, deux bouteilles en verre dont l'une est en alu et que celle en alu est métallique, la conclusion est que l'aspect aluminium donne un goût métallique. Donc si tu ne le veux pas, tu vires l'alu. Mais pour moi, aujourd'hui, l'eau encodée n'a absolument pas besoin d'être dans une bouteille avec de l'alu. Parce que la lumière ne peut plus jouer sur l'encodage V2. A priori. Une question de Acquiesce-toi. J'ai noté à plusieurs reprises des chutes de vibrations brutales et inexplicables des eaux encodées, les pierres étant encore dans l'eau. Alors, sauf celles encodées avec les deux C2P. Je précise que dans la plupart des cas, ces eaux étaient stockées dehors. Est-ce qu'une chute des vibrations de l'environnement immédiat, pylône Wi-Fi, entité, changement de lune pour expliquer cela? Alors, déjà, dans une première chose, il faut faire une différence entre les deux C2P et le cristal de roche et les autres pierres. Donc, déjà, le cristal de roche a l'avantage d'avoir toutes les fréquences, ce qui n'est pas le cas des autres pierres. Donc, maintenant, je vais te donner le deuxième élément. Quand tu mets une eau encodée dehors, dis-toi bien que les entités viennent s'y désaltérer. Alors, quand c'est un chat, il va boire de l'eau, mais quand c'est, on va dire, un nain, une fée, n'importe qui, il peut venir dans l'eau et pomper littéralement toute l'énergie qu'il y a dans l'eau. Donc, nous avons eu cet effet... régulièrement, quand on faisait nos essais de référence, machin truc, etc., nous avions deux tritons, et il y en avait un qui était un véritable glouton, qui, quand il voyait que l'eau était suffisamment montée, il allait se déguster. Alors je comprenais pas, j'avais des à-coups dans mes, on va dire, dans mes statistiques, j'avais de l'eau qui était par exemple, on va dire, montée à 500, et puis le lendemain, elle était à 200, ou voire à 50. J'ai dit, attends, c'est quoi le problème? Et puis ça remontait en puissance. Et là, j'ai dit, oh là! Je sais qui c'est, et il n'y a pas eu photo. Donc quand tu as une eau qui est encodée avec un cristal, enfin un caillou XYZ, si un être de la nature passe par là, il va te la sucer, et là tu verras que ça va descendre très lourdement. Quand c'est fait avec un 2C2P, il va pouvoir en sucer une partie, parce que comme il ne possède que quelques notes du clavier, il va pas sucer les autres notes. Donc tu verras beaucoup moins la différence. Parce que il peut pas tout bouffer. Voilà, donc comprenez bien que si vous laissez de l'eau encodée dehors, dehors, il y a les invisibles, et les invisibles, quand ils voient ça, je peux vous dire que pour eux, c'est un bain de jouvence. Hein. Donc, ils en profitent à mort. Donc, vous inquiétez pas si, si ça descend, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Alors, il dira pas qui c'est, parce que si vous communiquez pas avec, il va pas lever le doigt. Hein. Mais si par contre vous communiquez avec, eh bien il pourra plus venir dans le truc, sauf si vous lui donnez l'autorisation. Mais si vous ne communiquez pas avec les êtres de la nature, ils se permettent à ce moment-là tout, puisque vous êtes des bouches à l'oreille. Donc pour eux, ils se baladent dans votre baraque, ils font ce qu'ils veulent. Mais le jour où vous communiquez avec eux, eh bien, ils ne peuvent plus se balader dans votre baraque, dans votre jardin, d'en faire tout ce qu'ils veulent, et ils vous demanderont l'autorisation, parce que ça fait partie des lois de l'un. Si il y en a un qui prend conscience de l'autre, à ce moment-là, il y a la notion de respect qui se met en route. Mais quand l'humain ne communique absolument pas avec les êtres de la nature, les êtres de la nature font comme chez eux parce que les humains, ils font comme chez eux. Les humains, quand ils voient un arbre, ils veulent le couper parce que ça bouche la vue sur ceci ou sur cela. Ils posent pas la question s'il y a quelqu'un qui y habite dedans. Eh bien, eux, ils font la même chose. Ils disent les bouches à l'émeri, ben nous, on fait ce qu'on veut parce que eux, ils font ce qu'ils veulent. Et par contre, s'il y a une prise de conscience mutuelle, à ce moment-là, il y a un respect qui s'installe obligatoirement. Alors, une autre question de Vivi. J'aimerais savoir si en mettant des cristaux encodés dans de l'eau, elle aussi encodée, encoderait-il des cristaux neutres? Alors, j'ai répondu tout à l'heure, oui. Hein? Donc, ces cristaux neutres seront encodés, mais moléculairement parlant. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, ils perdront leur encodage. Achat des L2P, mini-cristaux. Pourrais-tu nous en renseigner pour l'acquisition de mini-cristaux encodés, très bien dimensionnés pour être mis dans les mousseurs des robinets? Bah, disons que pour l'instant, ces L2P ne sont vendus que par moi quand je suis en tournée, parce que bon, on en a reçu une quantité, on va dire, limitée d'une certaine manière, et j'ai décidé, je vais pas dire nous, j'ai décidé de ne pas mettre ça en vente via Internet. Parce que ben ils auraient été épuisés en 24 heures ou 48 heures et voilà donc pour se procurer des L2P ben soyez au point de rencontre, venez au weapon, vous venez au point d'encodage quand j'y passe et sinon ben faites passer on va dire le message à quelqu'un qui y va pour qu'il vous en achète. Voilà. Alors, maintenant, une question d'Alain 44. Tu nous as parlé de ta conférence de Missillac, des cités cristallines qui résurgissent avec l'encodage. Peux-tu développer ce sujet? À quel endroit pourrons-nous les voir? Elles sont habitées par qui? Dans quelle dimension? Leur rôle, leur aide, leur attente? Alors, tout ça, c'est, Alain, mental. C'est-à-dire que c'est une demande purement du mental ego qui aimerait savoir tout ce qui se passe. Alors, donc d'un côté, je suis enclin à pas y répondre, d'un autre côté, je vais quand même donner un petit peu de réponse. Tout à l'heure, dans la première question, on parlait qu'il y avait eu, est-ce qu'il y avait eu des changements? Eh bien, ces changements de l'encodage, on va dire, que nous faisons, c'est-à-dire vous et nous, eh bien, commencent à changer la donne vraiment profondément, au point que maintenant, eh bien, les EDLN ont prévu de sortir, de mettre le nez dehors. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient dans le mode recroquevillé, on se met à l'abri des prédateurs, des joueurs, et on attend. On attend le signal de départ pour refoutre le nez dehors. Donc, quand nous avons encodé, on va dire, la cathédrale de Strasbourg, pratiquement, principalement, on a fait Pontarlier, Épinal et Strasbourg, mais c'est à Strasbourg que ça a déclenché, on va dire, le mouvement, hein, puisqu'à Strasbourg, on n'a pas fait semblant du tout. Et ça a été un signal de départ qui a fait que, progressivement, bah, il a fallu qu'on aille encoder les cathédrales, parce qu'on avait, comme derrière l'autre, allumé la mèche quelque part. La mèche sur la grille cristalline était allumée et il fallait continuer à faire. D'où aujourd'hui une tournée beaucoup plus longue pour nous, avec beaucoup plus de points à encoder. Et ensuite, quand nous sommes passés du côté de Maubeuge, nous avons été effectivement encodé, on va dire, trois cités cristallines qui étaient dans un endroit spécifique, à la frontière, on va dire, belge. Et le résultat a été étonnant. C'est-à-dire que les êtres de la nature ont reçu tellement d'énergie qu'au lieu d'être recroquevillés et se protéger des humains, ont décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de regagner du terrain. C'est-à-dire de regagner du terrain par rapport à l'involution, c'est-à-dire bah, de repousser les frontières de leur petite cité, entre guillemets. Donc, en clair, ils foutent le nez dehors et commencent à reconquérir du terrain. Partant de là, eh bien, ça a été une deuxième mèche qui a été, on va dire, allumée, qui a fait que d'autres, plus tard, hein, dans notre tournée, nous avons eu des demandes pour pouvoir, effectivement, donner des coups de main aux êtres de la nature dans certains coins. Car je vous avais dit que dans certains coins, il y avait comme des dômes, c'est-à-dire des lieux qui étaient protégés et qui étaient lourdement, on va dire, protégés par les EDLN, par, on va dire, des principes de dimension énergétique, qui faisaient que quand un humain rentrait dans le dôme, tout esprit d'agressivité était parti. Hein, en clair, ils disaient « Oh, que c'est beau ici, oh, que je me sens bien », et ça leur prenait pas l'idée de dire « Je vais arracher les arbres pour mettre de la pelouse ». Donc, ils ont conservé ces lieux, on va dire, relativement intacts, grâce à cette stratégie dimensionnelle. C'est-à-dire que tout humain qui rentre dans ces lieux se sent tellement bien, se sent tellement dilaté dans ses corps, que sa notion de prédation s'évanouit quelque part. Et donc c'est pour ça que quand il peut, il prend sa bagnole, il y va, juste pour se regonfler les batteries. Donc c'est la manière dont les êtres de la nature avaient réussi à calmer l'aspect destructeur des joies. Et donc là, comme c'était la deuxième mèche d'un autre bâton de dynamite, on va dire. Donc il y avait un bâton de dynamite qui était les cathédrales. Donc ça, c'était pas prévu au programme dans ma tournée. Et ensuite, il y a eu un deuxième bâton de dynamite qui est celui des cités. Alors on dit cristalline puisque, bon, comme vous le savez, nous allons dans l'ère cristalline. C'est-à-dire la 5D6D est une ère cristalline. Nous redécouvrons ce que c'est d'être un être cristallin, d'où cet aspect silicé que notre corps physique tente, on va dire, de mettre en œuvre. Donc, autant en ayant allumé la première cathédrale, les autres, ils ont dit « et nous, et nous, et nous », autant au niveau des êtres de la nature, c'était la même chose. Donc, nous sommes passés à un certain nombre d'endroits, on va dire, parce que c'était aussi fonction du timing que nous étions fixés, entre guillemets, parce que c'est facile de dire, on planifie les choses une semaine à l'avance, sauf que, au lieu de dire on arrive à 14h chez quelqu'un pour encoder les cailloux, on arrivait à 8h le soir, parce que pendant toute la journée, on avait encodé soit des cathédrales, soit des cités, etc. Donc on a une surcharge de travail qui, maintenant, est prise en compte dans la tournée du Sud. C'est-à-dire que là, ce surcroît de travail a été, on va dire, intégré dans la tournée, de telle manière que on puisse quand même abattre un maximum de boulot, tout en contentant aussi bien, le réseau cristallin, c'est-à-dire avec les cathédrales, les églises et les basiliques, que le réseau des êtres de la nature. Donc nous avons effectivement permis à certaines cités cristallines, notamment en Bretagne, qui sont dans la majorité des cas en pleine mer, c'est-à-dire que sur la Terre, c'était le bordel, donc ils ont tout simplement migré au niveau de la mer, mais sous la mer, parce que au-dessus c'est l'astral avec toutes les merdes que vous connaissez. Donc, quand nous avons encodé certains rochers, certains menhirs, certains tumulus, certains points, on va dire, énergétiques auxquels ces cités sont reliées, certaines cités sont remontées. Donc, comme elles sont remontées, ça veut dire elles remettent le nez dehors, parce que pour elles, c'est le signal. C'est le signal que maintenant, ça y est, le nouveau paradigme est en route. Donc, comme un certain nombre nous l'ont dit, on savait que c'était dans l'air, on savait qu'un jour ça allait venir, mais on voulait des faits. Les faits, ils ont eu. Voilà. Donc c'est la même chose au niveau des cathédrales et des églises. Il faut savoir que dans les cathédrales et les églises, c'est lié à un vortex. Hein, je vous expliquerai tout ça plus tard dans un article. Et qu'à chaque vortex, il y a un gardien. Simplement, ces gardiens ne pouvaient pas être des êtres de la nature, car un être de la nature enfermé dans une église, ça n'existe pas. Surtout que dans ces églises, eh bien, il y a des joueurs involuants qui récitent à n'en plus savoir des tas de conneries involuantes. Et qui vibrent, bien forcément, des vibrations très involuantes. Donc, les seules entités capables de pouvoir tenir cette involution s'appellent des anges, c'est-à-dire ceux qui sont en 7D et plus. Et donc, ces anges, eh bien, nous en avons rencontrés partout où il y avait des églises, enfin, partout où on a encodé, et un certain nombre nous ont dit, écoutez, nous, on a, ça fait ça fait très longtemps qu'on est là, qu'on attend, et on attend le signal, et là, nous, on ne veut plus du baratin, on veut des faits. Et le seul fait, c'est de dire, ok, ben, on encode ton église, et puis on voit ce qui se passe. Et les premiers monuments qu'on a faits, eh ben, ils étaient sur le cul. Et il faut savoir que les églises ou cathédrales sont quand même à une certaine distance kilométrique. Mais dans leur monde, ça se voit. C'est-à-dire que si vous encodez même une cathédrale à 60 ou à 100 km de là, eux, ils le voient, quoi. Et donc, quand ils ont vu que ça commençait à s'illuminer, la nouvelle s'est répandue sur le réseau, on va dire angélique, et sur le réseau des êtres de la nature. Résultat, maintenant, dès que je regarde une église, l'ange, il m'appelle, il dit, tu t'arrêtes, et je dis, attends, désolé, mon grand, mais là, j'ai du taf, j'ai des rendez-vous, je passe, on reviendra plus tard quand on pourra. Voilà, donc avant, je pouvais me sentir attiré vers une cathédrale ou une autre, mais maintenant, dès que je regarde un clocher, je suis foutu. Donc, on ne peut pas s'arrêter à toutes les églises de France, hein. Donc je passe mon chemin. Alors bien sûr, ils sont désolés, mais parce que vous imaginez que si je dois encoder toutes les églises de France, à Noël, j'y suis encore, hein, et tous les jours, et non. Donc pour l'instant, on fait les priorités. Mais il est évident qu'il va falloir passer au pas une fin. Mais bon, je vous dirai plus en détail pourquoi ceci et comment en fait l'involution s'y est prise pour emprisonner l'humanité dans les religions. Et donc dans l'involution. Mais bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je suis à la webconf et je vous ferai des beaux dessins. Et vous aurez le détail. Alors, continuons. Donc, à quel endroit pourrons-nous les voir? Alors, les secrets cristallines, comme le nom de l'île, sont cristallins. Et donc, c'est comme si tu disais, montre-moi un esprit cristallin. Tu peux regarder un crâne de cristal, il est certes dedans, mais tu verras pas l'esprit cristallin direct, parce que pour arriver à voir les esprits cristallins, comme d'ailleurs les êtres de la nature, faut passer en 5D6D. Donc, ça ne dépend que de ta vibration. Et donc, au fur et à mesure que tu monteras en fréquence, tu pourras commencer à discerner des formes, et puis progressivement, à voir les formes. Et ces formes, tu les verras. Donc, si tu vois un nain tel qu'il est, ou un elfe, ou tout ça, ou un être de lumière, tu verras forcément les cités cristallines. Donc, nous pouvons effectivement... comment dire ? Voir les cités, mais quand tu verras les cités, ça sera bon signe. Ça sera vraiment très bon signe. Donc pour l'instant, tu peux imaginer que je ne peux pas dire où elles sont placées, comment ça joue, parce que l'humain, il est ce qu'il est. Il veut voir, il veut toucher, et il fera comme font des millions de touristes. T'as un endroit qui est bien, qui a de bonnes fréquences, de bons trucs, et puis après, t'en as un qui vient, t'en as deux, t'en as trois, t'en as dix, et après, c'est des milliers qui viennent, et puis ce qui était un lieu protégé devient une poubelle. Donc, pour des raisons de protection pour l'instant, imagine que si je disais où étaient les cités cristallines, il y en aurait plus d'un qui prendrait leur bateau pour aller voir. Or, un hors-bord sur une cité cristalline qui a sorti le nez, c'est un bordel sans nom. C'est comme si il y avait les motards qui font un boucan fou qui tourne autour de ta baraque 24 heures sur 24. C'est intenable. Donc, pour l'instant, on va dire le secret est tenu là-dessus. Par sécurité et pour eux. Hein? Alors, pour répondre aussi dans quelle dimension, j'ai dit c'est du 5D6D. Leur rôle, c'est tout simplement de maintenir la planète en état, c'est-à-dire le décor, d'accord. Leur aide, eh ben, c'est simple. Quand ils se remettent à être opérationnels, c'est pour que Maman Orantia Gaïa reprenne ses véritables couleurs. Et leur attente, ils n'en ont pas, puisque quand nous sommes dans 5D6D, l'attente n'existe pas. Donc, le seul truc, c'est que le seul souhait, c'est que l'humain se débouche. Et si un humain se débouche, croyez-moi qu'ils sont heureux. Une question de Jardin Zen, et là on passe à d'autres choses. Guise peut-il s'exprimer directement auprès de l'un des poussés ? Par définition, non. C'est-à-dire que Guise a bien précisé qu'il n'allait pas répondre à tous les appels qu'on allait lui faire, premièrement, et deuxièmement que Guise, c'est pas son nom. Donc si vous appelez Guise, vous allez probablement appeler des entités qui disent « Tiens, j'en ai un là qui s'attend à quelque chose et je vais lui jouer un petit tour de passe-passe. » Donc on va dire que Guise n'est pas le nom de l'entité, donc c'est un faux numéro de téléphone. Donc si vous voulez prier Guise, parler à Guise et tout ça, dites-vous bien que l'entité ne vous répondra pas car Guise en tant que telle n'existe pas. C'est une autre entité avec un autre nom. C'est comme dire, je vais envoyer une lettre au Père Noël et le Père Noël me répond. Bon, d'accord, très bien. Mais ce n'est pas l'entité que vous pensez. Une question d'Alain. Qu'est-ce que l'Internet des EDLN ? Avons-nous été filmés lors des conférences ? Alors, l'Internet des EDLN, c'est-à-dire que ils ont la grille cristalline, aussi, puisque ce sont, ils jouent sur la grille cristalline comme nous. Donc, ils ont leur radio. Il y a Radio EDLN, il y a Radio Angélique, il y a Radio... Ils sont sur des fréquences différentes, mais n'empêche que ça fonctionne. Ce sont des... Quand on parle de la grille cristalline a plusieurs dimensions, je signale. D'accord ? Il y a celle de 3D cané, il y a celle de 5D 6D, il y a celle de 7D 8D, etc. Il y a toutes les dimensions dans la grille cristalline. Voilà, quoi. Donc, il y a Radio EDLN. Et apparemment, Radio EDLN fonctionne mieux que Radio Angélique. Parce que Radio Angélique, ils étaient tous coincés, isolés chacun dans leur cathédrale ou dans leurs églises, et avec pratiquement très peu de communication entre eux, puisque le réseau a été complètement squatté par l'involution. Radio EDLN, ils ont l'avantage, eux, c'est qu'un nain, il peut te monter dessus, ou monter dans ta bagnole, tu ne sais même pas qu'il est là, et puis il va pouvoir se déplacer, puis aller causer aux autres, etc. C'est-à-dire que les aides de la nature ont cette capacité à pouvoir utiliser les moyens de transport humains pour aller se balader, propager la parole, ce qui n'est pas le cas des anges. Les anges sont coincés entre quatre murs dans leur église, et ils ne peuvent pas en sortir. Voilà. Parce que je rappelle que, tout simplement, le gardien du vortex qui est dans l'église ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Donc il ne peut pas abandonner son vortex. Donc ils ne peuvent pas bouger. Voilà, attendez, je lis les autres questions. Alors, dernière question, le nombre 88. Une question de Erwan. Il y a un nombre qui m'intrigue à la façon du 144, le 88. En copiant le raisonnement du 144 dans la vidéo que tu as publiée à ce sujet, le 88 peut correspondre à 8 sommets notes fois 11, c'est-à-dire les cubes de l'arbre de vie. La raison de mes recherches est liée à cette prophétie. Dans l'un des messages de la Vierge Marie reçu par Marie-Julie Laini, le 9 août 1881, ayant pour sujet la destruction de Paris, on peut y lire « Mes enfants, il ne s'en échappera pas sans, non pas sans au milieu de ce, pas sans au milieu de cette immense ville coupable. Comptez-en 12 de moins, vous aurez le chiffre véritable. » Il y a également Ophaniel qui se tient juste au-dessous des fréquences des archanges et préside 88 anges de fréquence. Bon. Alors, pour répondre, Erwan, c'est simple. Il y a bien sûr des chiffres. Alors déjà, quand on est dans une canalisation qui date de 1881, tu peux te rendre compte que c'est absolument obsolète nous avons totalement changé de fil du temps. Et de ce fait, toutes ces prophéties, tous ces trucs ne tiennent plus du tout la route. Ensuite, derrière le 88, il y a autre chose que simplement, tu mets 8 sommets, 11 cubes. C'est une possibilité, mais ce n'est pas celle que je vois. Mais bon, là, je peux pas aller plus loin parce que c'est pour aller tout simplement dans le mental, égo, lui donner plein à bouffer et voir des tas de choses là où il n'y en a pas. Donc, je pense que c'est pas utile d'aller plus loin par rapport à ça. Donc, suite à notre rencontre où tu as dit que la fission nucléaire ne pouvait pas avoir lieu que dans certains endroits particuliers, à des moments particuliers, et qu'elle ne pouvait avoir lieu en Bretagne, j'ai repensé aux prophéties de Marie-Julie qui disait que le seul endroit sûr était cette région. Elle a également confirmé les déserts spirituels, la Bourgogne et la Côte d'Azur. Il y a une tonne de liens à faire notamment entre le feu du cœur et le règne du Sacré-Cœur. As-tu des informations particulières sur ce nombre ou des précisions ou remarques sur cette prophétie ? Bon, la prophétie, je les ai pas lues. Déjà, le règne du Sacré-Cœur et le feu du cœur, je crois qu'on parle exactement de la même chose, hein, simplement, bah, c'est pas en termes religieux, hein, parce que le règne du Sacré-Cœur, c'est une lueur du cœur qui est sacrée, or le feu du cœur, c'est quoi? Donc c'est la même chose tout ça. Voilà, donc à l'intention d'Erwan, mouline pas trop, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je publie de moins en moins. Non, c'est pas parce que je ne veux pas le faire, mais c'est que bah, d'abord je suis très occupé, mais ensuite, maintenant, il est plus temps de passer à des actes, on va dire, pratiques et à regarder ce qui se passe en nous plutôt qu'à alimenter le mental égo. Pour l'instant, tout ce que j'ai pu dire, écrire dans mes différents blogs étaient des choses pour démarrer, pour mettre, on va dire, des bases. J'aurais pu bien des fois aller encore beaucoup beaucoup plus loin, mais tu peux te douter que plus je vais aller loin, plus il y aura des questions. Or, généralement, plus nous nous rapprochons de notre intelligence intuitive, plus nous sommes en connexion avec notre soi supérieur, c'est-à-dire avec notre petite voix, et plus nous sentons la connaissance et nous n'avons pas besoin de la verbaliser ou de la conceptualiser par le mental. En clair, plus un être évolue en fréquence, et en fait, moins il a de questions. Et un être véritablement dans sa plénitude n'a aucune question. Et la réponse est simple, il est. Voilà pourquoi, plus tu avanceras, bon, il y aura toujours des questions, ça c'est normal, mais que tu verras que tu en auras de moins en moins. Donc il ne faut pas favoriser la musique en disant déjà un certain nombre de questions qu'il faudra se poser, mais en plus éviter toutes celles que l'on s'oppose et qui ne servent absolument à rien. C'est-à-dire celles de vouloir couper les cheveux en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, ça n'amène rien, un cheveu c'est un cheveu. Le couper en 2, ça peut encore se faire, mais en 64, ça ne sert plus à rien. Parce que le but c'est pas de regarder ce qui se passe au niveau du cheveu, mais au niveau de la tignasse. Donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Bon, je vais regarder maintenant les questions qui sont sur, on va dire, sur le chat. Une question de Philippe. Quel retour as-tu sur la relation entre le cycle lunaire et la montée en fréquence de l'eau? Y a-t-il un rituel ou un rythme favorable? Alors, pour l'instant, pour les gens qui me connaissent, les rituels, c'est vraiment pas mon truc, hein, d'accord? Et les rythmes favorables, le seul truc, c'est soit dans ton instant présent et suis ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent et nous sommes surtout pas dans un truc prévisible. En clair, nous sommes la chenille en train de devenir papillon. On n'est pas encore papillon, mais on n'est plus vraiment la chenille. Mais entre les deux, c'est le bordel, ça s'appelle le chaos. Et donc, dans un truc de chaos, à part suivre son instant présent, vivre son instant présent, être dans son instant présent, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Une question de Dave. N'y a-t-il pas un risque de fort développement bactérien dans les bouteilles d'eau qui ne sont jamais complètement vidées? Alors, une chose, moi je n'ai aucun risque bactérien, pour la simple bonne raison, c'est que l'eau qui reste est une eau encodée avec puissance maximale. Donc, cette eau encodée ne va pas faire développer les bactéries. En fait, vous le verrez bien. D'abord, si je voudrais aller un tout petit peu plus loin, quand on parle de bactéries, on pense Pasteur. Quand on pense Pasteur, on pense à l'évolution. Pasteur est un être qui a permis à l'évolution de s'installer encore beaucoup plus profondément. Car s'il n'y avait pas eu Pasteur, il n'y aurait pas eu les hôpitaux, il n'y aurait pas eu les vaccins, il n'y aurait pas eu toutes les saloperies qui ont été faites. Alors certes, a priori, on a, par cette méthode, entre guillemets, sauvé des vies, mais on n'a pas regardé combien de morts on a créé. Donc, de ce côté-là, quand on parle de bactéries, je souris un tout petit peu parce que c'est ta fréquence, c'est ta vibration qui va faire la différence. Donc, pour moi, pour l'instant, l'eau, je ne l'ai pas vidée depuis pratiquement le début de l'expérience. Donc, ça fait largement 2 mois. Je peux dire qu'il doit y avoir certainement 0 bactérie dans cette flotte. Parce qu'une flotte, enfin, une bactérie qui résisterait à, on va dire, à une 10 puissance 2000, ou 2005 ou 3000, faudrait qu'elles soient costaudes. Or, ils ne sont pas prévus pour ça. Hein. Les bactéries se développent là où c'est profitable. Or, pour elles, ce n'est pas profitable quand il y a de la lumière. Enfin, voilà, c'est ma réponse. Moi, je n'ai jamais d'eau dans mes bouteilles fermées, même quand il me reste un fond. Je n'ai jamais eu un développement de quoi que ce soit. Ça n'a jamais verdi, jauni, dépôt de calcaire, rien. Et c'est des bouteilles en plastique, hein, je signale, au passage. Une question de Fata. Quels effets as-tu remarqué sur les chemtrails? Alors, j'en sais rien parce que j'ai pas le temps de lever, entre guillemets, le nez, là-haut. Hein. J'ai remarqué que le ciel était beaucoup plus clair et plus lumineux avec quasi absence de traînée chemtrails. Je suis d'accord avec toi que ça purifie l'atmosphère et les égrégores au-dessus de certains lieux. Il faut savoir qu'effectivement, ça déménage à bien des égards, et que le fait, par exemple, d'encoder des cathédrales veut dire que ces cathédrales sont sur des vortex, et donc que ces vortex sont très puissants et montent très haut, on va dire, en altitude. Donc le résultat, c'est sûr que plus ça va aller, plus ça va être difficile pour que les saloperies qui sont ensemencées, on va dire, dans le ciel, puissent tenir la route. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a rien qui dit que actuellement les gouvernements continuent à déverser tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu un radis. Et maintenant, quand même, les pilotes sont quand même pas aussi fous qu'avant. C'est-à-dire, avant, on leur disait « Ouais, c'est pour le bien-être des cellules, c'est pour ceci, pour cela. » Et avec tout le bordel publicitaire qu'il y a eu à ce niveau-là, je peux dire qu'un pilote qui dit « Je suis en train de balancer des tonnes de merde sur mes frères, mes concitoyens », ne doit pas vouloir envie de prendre l'avion, à moins que ce soit un militaire. Parce qu'un militaire, ça s'exécute et ça n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, sinon il faut qu'il pose sa démission. Donc en clair, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc je ne veux pas attribuer le truc des chemtrails forcément au programme d'encodage, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont en parallèle et qui, bien sûr, s'influencent les uns les autres. Là, dans mon dernier, on va dire, périple, j'ai fait à peu près dans les 4500 bornes, j'ai pas vu un bleuet sur le bord des routes. J'ai pas vu un radar souffler fixe, j'en ai pas vu un. Où ils sont passés? Ils ont tous foutu en vacances. Parce que quand même, au mois d'août, on les met sur le bord des routes quand même. Zéro, nada, j'en ai pas vu un. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent par derrière et voilà quoi. Donc c'est peut-être Monsieur le Président qui a dit n'allez pas les foutre dehors parce que les Français sont déjà ils ont déjà les crocs, là ils veulent déjà me bouffer, alors si en plus on leur vide les poches avec des sanctions un petit peu limites, donc ils ont peut-être reçu l'ordre de ne pas foutre les pieds dehors. Ou tout simplement parce que l'État n'a plus assez de sous pour leur donner pour qu'ils fassent le plein et pour qu'ils fassent leur boulot. Ou peut-être ils auront dit prenez vos vacances pendant le mois d'août, parce que au mois de septembre, la rentrée va être chaude et on aura besoin de tout le monde. Vous voyez, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte, donc n'attribuons pas tout forcément à l'eau encodée, mais il faut savoir que l'eau encodée est un des paramètres qui va permettre effectivement à la population de se rendre compte de ce qui se passe exactement. C'est une aide, parmi d'autres, mais une aide qui va faire la différence. « Alors, une question de Jardin Zen. En attendant votre passage, peut-on aller déposer des 2C2P et O dans la petite église du village? Alors, il faut savoir que nous, systématiquement, quand on va faire nos encodages, on a besoin d'eau, donc c'est forcément de l'eau encodée puissance maximale, et systématiquement, on en fout dans tous les bénitiers. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc, en mettant dans le bénitier, la pierre reprend un petit peu l'encodage. Bon, il ne sera pas, comme je l'ai dit, perpétuel, mais bon, généralement, quand on rentre dans une église, c'est pour l'encoder. Mais on met de l'eau encodée dans tous les bénitiers qu'on trouve. Voilà, donc tu peux effectivement mettre des pierres, mais bon, s'il y a une dame qui fait le ménage, la pierre, elle va gicler, quoi. Donc, faites comme vous voulez, mais sachez que de toute façon, votre intention. Alors, vous pouvez bien sûr mettre la pierre à l'extérieur de l'église. Ce que nous faisons aussi, à chaque fois qu'on fait les églises, on voit souvent il y a des très gros arbres. Alors, on a toujours des cailloux avec nous et on balance systématiquement un caillou à chaque arbre. Donc, au moins, on peut dire que chaque arbre va respirer l'encodage de base. Une question de Jean-Lucas. Si je dépose des 2C2P enfin des C2P au pied d'une église ou d'une cathédrale, je n'encoderai bien sûr pas l'église ou la cathédrale, mais est-ce que la vibration du lieu va quand même augmenter? Oui, la vibration du lieu augmentera, puisque les arbres vont en bénéficier. Et donc forcément, autour, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est évident. Et comme on sait que le programme se diffuse, il y aura un effet de surface, mais il y aura un effet. C'est évident. C'est évident. Une question de Carole. Bonsoir Laurent. Est-ce que les énergies ou esprits peuvent intervenir directement dans notre vie? Alors, directement dans notre vie, il faut là aller plus loin, on va dire dans le détail, parce que par définition, ils n'ont pas le droit d'intervenir dans la vie d'un joueur. Enfin, quand je veux dire, dans le jeu d'un joueur. C'est-à-dire que c'est une règle fondamentale. Si vous êtes en contact avec un être de lumière ou un être de la nature, il faut poser une question pour qu'il y ait une réponse. Parce que si vous n'avez aucune question, ils n'ont rien à dire. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vous diront rien d'utile pour vous. Donc après, quand on te dira, ah, ben, est-ce que je dois faire ça ou ça, ils ne prendront aucune décision pour vous. C'est vous le joueur, c'est pas eux. Donc ils ne peuvent pas intervenir directement. Mais indirectement, ils peuvent vous aider à faire des choix peut-être plus propices. Ceci est différent. Donc, quand nos guides nous disent, quand je leur pose une question sur ci ou ça, ils disent, ils me donnent les éléments et c'est à moi de prendre ma décision. Mais quand ils me disent la pizza c'est de la merde, ça m'empêche pas de continuer à manger des pizzas. C'est ma décision. Et ils ne vont pas revenir 2 jours plus tard en dire, t'as vu, t'as mangé une pizza, c'est pas bien, tu vois, quand rien. Aucune remontrance, rien. Ils vous diront rien. Ils vous disent, il y avait un élément, je vous ai donné l'info. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'ignorer ou la mettre en œuvre. Mais de toute façon, on vous fera aucune remarque, aucun reproche. Ça n'existe pas. Et donc, c'est comme ça qu'on avance avec nos guides. C'est-à-dire que on voit bien que c'est nous qui faisons notre vie. Comme tu le dis, c'est nous qui décidons de ce que l'on veut vivre et voir devant nous. Donc, en mangeant la pizza, je sais que je me fais plaisir, on va dire, aux papilles, mais que je ne fais pas du tout plaisir à mon corps, et encore moins à mon élévation de fréquence. Cela dit, je ne mange pas une pizza tous les jours. Une question de Philippe. Laurent, lors des mini-conférences, recevons-nous des soins? Me sens transformé depuis. La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte. La première, c'est que c'est l'effet, on va dire, de résonance. C'est-à-dire que si vous avez une entité qui a une vibration, je donne des chiffres comme ça, une vibration à 1000, et que toi, tu es à 500. Automatiquement, il va augmenter la vitesse de rotation de ton véhicule. Et tu passeras à 600, 700, 800, 900 pendant qu'il est là. Et puis, tu vas te sentir transformé, bizarre, en bien, hein, vraiment en bien. Et puis après, les effets vont s'estomper avec le temps. Puisque, comme tu ne seras plus en présence de ces personnes, eh bien, ton véhicule va se mettre à ralentir. Donc ça se passe avec tout le monde. Donc, quand un individu, un lampadaire, c'est-à-dire que vous avez une pierre encodée avec vous, vous buvez de l'eau encodée, eh bien c'est ce que vous faites par rapport aux autres personnes qui, eux, ne boivent pas d'eau encodée ou qui y sont sur le début. C'est-à-dire que vous allez, bah, indirectement, les aider à augmenter leur fréquence. Donc c'est ainsi que souvent les gens, quand ils sont en notre présence, eh bien, ont des facilités. C'est-à-dire que par exemple, quand on leur présente des êtres de la nature ou des choses comme ça, ben, ils les sentent, ils les entendent bien, enfin, ils entendent à leur manière. Et c'est-à-dire que les choses deviennent faciles. Et puis après, quand on part, ben, ça diminue un petit peu, et puis ils disent, mais avant, putain, j'y arrivais, maintenant, j'y arrive plus. C'est parce que tout simplement, ils n'ont plus l'activateur à côté. Alors bon, ben, s'ils étaient à 500, ils seront montés à 600 ou stabilisés à 700. Mais ils sont pas à 1000. Donc, le fait de continuer à boire l'encodé, de continuer à vouloir communiquer avec les êtres de la nature, ils arriveront à 1000. Mais c'est vrai qu'il y a un petit coup de booster quand on est en présence de personnes qui ont une vibration, une fréquence supérieure. Alors quand je dis supérieure, c'est plus grande en chiffres, hein. Ça ne veut pas dire hiérarchiquement, non, il n'y a personne qui est supérieur à un autre. Mais c'est clair que quand vous avez une note, une fréquence qui est plus grande que celle de l'autre, ben vous lui permettez de découvrir des choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes toujours accompagnés. Vous pouvez imaginer que nous sommes accompagnés d'un certain nombre d'entités, c'est-à-dire ben, tous nos guides qui regardent comment on joue, comment ça... Enfin bref, quoi. Et donc, la présence de nos guides permet aussi de donner une atmosphère particulière, permet de pouvoir monter en fréquence le groupe, de par leur simple présence. Donc c'est un ensemble de choses, alors on peut toujours regarder en disant « ouais, c'est des soins ». C'est pas quelque chose, on dira « il faut soigner les gens », pas du tout. Simplement, vous êtes dans un milieu, on va dire, favorable. Et donc tous les gens qui viennent à ces mini-confs vont se retrouver dans un lieu favorable, où il y aura à la fois deux humains, on va dire, qui tournent assez bien, plus la quantité d'êtres de la nature et d'êtres de lumière qui sont avec eux, et tous ceux qui sont venus à mini-conf où on a fait, on va dire, de l'encodage, ont tous pris connaissance de notre géant de pierre. Et donc, quand ils détectent le géant de pierre et qu'ils sont dans le géant de pierre, ils sentent qu'il y a une élévation de fréquence. Donc, vous voyez, c'est un ensemble. Donc, c'est clair qu'on peut toujours tout faire à distance, derrière un écran, mais une présence physique lors de ces rencontres vous amènera des éléments que vous n'aurez jamais en lisant Internet ou en écoutant une webconf à distance. Hein? C'est comme ça, quoi. Une question de Fan Finou. Enfin, voilà. Peut-on donner de l'eau encodée à des enfants? Quel effet cela va leur faire? C'est même plus que préférable. C'est-à-dire que comme ils sont pas encore durcis et formatés comme les adultes, eh bien, ça va leur développer leur corps encore, enfin, mieux. C'est-à-dire, ça va décrasser d'abord le début de crasse que la société leur a mis sur eux. Et en plus, ça va favoriser encore plus largement leur capacité à se connecter à l'invisible. Donc nous avons récemment, nous voyons des gens de plus en plus jeunes, dont des enfants. Et donc quand vous avez des enfants de 8-9 ans, vous vous dites, bah tiens, regarde, viens voir, là il y a un être de la nature, dire, ah bah ça y est, je le sens, ah bah tiens, ça y est, je sais son nom, ça vous fait quand même plaisir de voir que en un claquement de doigts, ils vont faire ce que vous avez rêvé depuis 20 ans. Donc il faut surtout pas comment dire, c'est pas un médicament, enfin, quand je dirais ça, c'est pas comme la prescription d'un médicament, des blouses blanches qui disent attention, posologie, un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir. L'eau encodée, il y a nos limites. C'est nos limites parce que vous allez voir que c'est un programme intelligent, c'est-à-dire qu'il fait en fonction des capacités de l'individu. Et donc, quand c'est un enfant, il va le faire en conséquence, il va agir en conséquence. Il agira, parce que le but de l'eau encodée, c'est pas de faire claquer les gens, c'est simplement de les faire décrasser. Donc, en fonction de ce qui est possible de faire, le programme le fait. Ce n'est pas un programme, on va dire, con, bête et méchant, autant que les médicaments qui sont fabriqués par les humains. on va voir, on va comprendre que ce programme est en fait télécommandé d'une certaine manière par Bon, je devrais dire des choses, mais je peux pas les dire dans les webcams, je ne dis qu'en présence des gens, parce que ce sont des informations délicates, et après, donc je ne peux pas vous le dire. Mais dites-vous bien que le programme est intelligent, hein, et qu'il est fait aux individus selon leur fréquence et leur vibration. Donc si un enfant a des tuyaux bouchés, de pas bouchés, eh bien vous inquiétez pas, ça va aller travailler là où ça doit travailler, et les gamins vont faire comme les chats. Ils iront boire dans la gamelle de l'eau encodée et pas dans la gamelle où on leur met l'eau du robinet basique. Ils le savent, ils le sentent. Et ils feront. Hein? Et donc, généralement, même c'est toujours très appréciable de voir les enfants communiquer avec les aides de la nature, parce qu'au moins, comme nous, on est bouche à l'aimerie, ils peuvent au moins faire les traducteurs et nous aider. Hein? De toute façon, c'est quelque chose que j'avais dit depuis fort longtemps. Les gens disaient, ah oui, mais l'ascension, et comment qu'on fait pour les enfants et pour les bébés, vous inquiétez pas, c'est nous les dinosaures, eux, ils vont suivre la musique. Parce qu'ils se posent pas la question, ils ont pas un mental aussi développé que le nôtre, donc ils sont plus dans les ressentis, beaucoup plus dans leurs intuitions, et ils écoutent leur petite voix sans même qu'on leur ait parlé de petite voix. Donc, il faut pas se soucier des enfants, par contre, si vous savez que vous avez de l'eau encodée, donnez-leur, sans même leur dire que vous leur en donnez, ils s'en foutent. Mais ils verront quand même des différences. Alors, une question de cas. Est-ce que garder des cailloux encodés dans sa voiture est une bonne chose pour être protégé? Alors, ça dépend par rapport à quelle protection. Et là aussi, pour les gens qui viennent aux conférences, aux mini-conf, la réponse est simple et elle est donnée. Là, par contre, je ne peux pas la donner en ligne. Désolé. Hein, mais bon, sachez que de toute façon, quand vous avez une pierre encodée sur vous, vous êtes de toute façon protégé. Une question de Bruno. Lorsque j'envie dans l'évier l'eau encodée qui a servi à nettoyer mes fruits et légumes, cela encode l'eau du réseau en retour. Alors, il faut savoir qu'il y a le réseau d'arrivée d'eau, hein, ce qu'on appelle l'eau potable. Et puis après, vous avez le réseau d'eau usée. Donc effectivement, l'eau encodée que tu jettes dans l'évier va aller encoder l'eau usée. Donc forcément, cette eau usée va monter en puissance, donc elle va être moins négative, on va dire, pour l'environnement, et elle ira donc, bien sûr, continuer son truc dans les stations d'épuration ou dans le déversement dans les rivières. Mais donc, le bénéfice, c'est que ça va rendre service à la nature, mais les gens n'en vont pas en reboire de cette eau. Pour l'instant, je n'ai pas, à part les stations d'épuration, je n'ai pas conscience qu'on se resserve des eaux usées pour les remettre dans les tuyaux de l'eau potable. Voilà. Alors, je vois des petites questions de Ludovic. Peux-tu nous parler de la rencontre en codage? La rencontre en codage, c'est que c'est déjà venir. Et puis, quand vous venez, après vous voyez, vous ressentez, et puis vous allez avoir accès à un certain nombre d'informations qui, preuve à l'appui, ne peuvent pas être écrites ou dites, enregistrées quelque part. Hein. Ce sont des informations dites sensibles, mais qui ne sont possibles de prendre connaissance que seulement quand vous êtes dans l'ambiance adéquate. Donc, tous les gens qui viennent à mes petites mini-conférences, sont beaucoup plus au fait et au courant de ce qui se passe. Mais je n'ai pas, pour l'instant, la possibilité de le dire. Et d'ailleurs, tous les gens sont d'accord. Si j'écrivais ce que je leur dis, il est évident que il y a quelque chose qui se passerait, mais de très négatif. Pourquoi ? Parce que les gens aurait un regard sur des informations sensibles, mais un regard de 3D, et de ce côté-là, ça serait pas bon du tout, parce que ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, ça sert à rien de tendre tendre le bâton pour se faire taper dessus. Donc, il y a des informations dont je ne peux diffuser dans aucun article ou webconf. Voilà. du moins tant que je n'aurai pas fini de faire les choses que je dois faire. Quand je les aurai faites, après, ça ne sera plus un problème. Ils pourront prendre connaissance. Mais ils seront devant un fait. Voilà, merci Jean-Lucas, chercher un bâton pour se faire battre. Voilà. Hein? Alors, la Fata qui envoie un lien. Bon, enfin bref, je ne vais pas aller voir tout ça tout de suite. Bien. Bah écoutez, il n'y a plus de questions a priori. Donc je vais arrêter la conférence ici, à moins que Brigitte me dise si c'est OK ou pas OK. Alors, il y a Fafa qui pose une question. Pourquoi tous ces phénomènes tourbillonnants dans le nord de la France? C'est parce qu'on a commencé à faire des choses. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que apparemment, Brigitte me dit qu'il n'y a plus de questions. Bien, je vous remercie, vous tous, et je vous dis à la prochaine et attendez-vous d'avoir un petit article dans les jours qui viennent. Voilà, merci, au revoir.